des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mercredi, j'espère que vous vous portez bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Écoutez, très rapidement, je veux attirer votre attention sur un éditorial, une opinion dans le New York Times qui se penche sur la question de la vaccination et qui dit qu'il faut changer notre façon de voir cette campagne de vaccination. Il faut arrêter de voir ça comme étant comparable, par exemple, à une vaccination dans le temps de la grippe, de l'influenza. Il faut voir cette campagne de vaccination comme si, comme pays, comme État, on était l'objet d'un acte de bioterrorisme, et il faut que toutes nos énergies soient concentrées là-dessus, que ce soit la priorité et qu'on en fasse vraiment comme si on était victime d'une attaque. Et je pense que ça s'applique bien sûr aux États-Unis, mais pourquoi on n'adopte pas cette mentalité-là, cette façon de faire-là ici au Québec? Quand j'ai vu cet éditorial dans le New York Times, j'ai poussé un admiratif. Ben voyons donc, ils l'ont l'affaire les Américains.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Bon, vous avez sûrement vu dans les nouvelles le premier ministre du Québec, François Legault, qui se met un petit peu à genoux en demandant « s'il vous plaît, Justin, pouvez-vous fermer les frontières pour faire en sorte que il y ait plus des gens qui rentrent de l'extérieur à l'aéroport Trudeau, qui porte quand même, c'est ironique, le nom du père du premier ministre. Est-ce que vous êtes posé la question à savoir si on était dans un Québec indépendant, quelle serait la situation de la COVID-19 au Québec? Est-ce que ce serait différent? En tout cas, je connais quelqu'un qui se l'est posé la question, c'est Jean-François Lisée. Bonjour Jean-François.
Bonjour Sophie.
Jean-François, tu as mis sur les réseaux sociaux une blague de péquiste. Alors, je vais la lire pour tout le monde, pour tous ceux qui ne sont pas nécessairement abonnés à ton compte. Alors, la blague de péquiste, c'est « Accepteriez-vous que le Québec devienne un pays indépendant pour immédiatement fermer ses frontières et réduire le risque qu'arrive au Québec une variante du virus COVID, 74% plus contagieuse qu'actuellement? » C'est une nouvelle version de la question du référendum. Très drôle, Jean-François. Il faut prendre ça par l'humour un peu.
Ben, il faut aussi dire sur les limites d'un statut provincial pour une nation. Alors, évidemment, si le Québec est indépendant, il y aurait des avantages et des inconvénients, mais il y aurait cet avantage-là qu'on aurait le contrôle sur nos frontières et le premier ministre du Québec qui demande que soit interdit tous les voyages non essentiels n'a pas la capacité de le faire. Il faut que ça soit une décision du gouvernement fédéral, parce que c'est de compétence fédérale. Et là, on est dans une situation où c'est plus dangereux que jamais le voyage international et même interprovincial, parce que deux variantes du COVID, la variante du Royaume-Uni, 74% plus contagieuse, et celle d'Afrique du Sud, qui est présente au Brésil, qui est 60% plus contagieuse. Si ça devait arriver ici, c'est déjà dans plusieurs États américains, ça augmenterait la difficulté de notre système hospitalier. Alors, pendant ce temps-là, il y a la semaine de relâche qui s'en vient, il y a les compagnies aériennes et les voyageurs qui offrent des rabais extraordinaires pour ceux qui veulent aller dans le sud. Je veux dire, c'est une situation absurde. C'est complètement absurde. Et je ne comprends pas la décision de Justin Trudeau. Là, c'est une décision de santé publique tout à fait normale de dire, ben, écoutez, on arrête tous les voyages non essentiels et on serre la vis à ce qui est essentiel. Parce que jusqu'à maintenant, il y a un certain nombre de choses qui passaient facilement. N'importe quelle raison commerciale de traverser la frontière est acceptée. On pourrait dire, ben, compte tenu du danger, c'est encore plus impérieux de réduire les transports interprovinciaux internationaux. Alors, c'est ça. Donc, c'est pas sûr qu'un Québec indépendant aurait à sa tête quelqu'un qui a toujours les bons instincts, mais là, en ce moment, c'est le cas. Et puis, donc, on est prisonnier du gouvernement qui a le mauvais instinct.
Voilà. Et c'est un peu absurde. Et l'image que moi, qui m'est venue en tête quand j'ai vu, j'ai trouvé ça extrêmement humiliant de voir François Legault se mettre à genoux et demander à grand-papa Ottawa la permission. J'ai eu l'image qui m'est venue en tête de quelqu'un qui est dans sa maison est assiégée par un mâle, mettons qu'il y a une panthère ou un tigre à l'extérieur de sa maison, et les fenêtres sont grandes ouvertes, et il est obligé de demander aux voisins « Est-ce que je peux, s'il vous plaît, fermer les fenêtres de ma propre maison pour me protéger? »
Oui.
Alors, c'est absolument...
Je vais donner un autre exemple, c'est comme si le téléphone était contrôlé par le propriétaire, nous on est locataire. Il m'a dit, pouvez-vous appeler le 911, s'il vous plaît? Oh, ça ne tente pas.
Je vais demander
aux émeutiers, s'il vous plaît, pouvez-vous arrêter l'émeute? Non, appelez le 911, j'ai pas le téléphone. Ben, la solution, c'est d'avoir le téléphone, d'être indépendant téléphoniquement.
Ouais, mais ça c'est intéressant, Jean-François, la nuance que t'as apportée tout à l'heure, et elle est selon moi cruciale quand on fait ce débat-là sur l'indépendance du Québec, c'est que la preuve n'est pas faite. On ne peut pas deviner au jour d'aujourd'hui quelle serait la situation si en effet le Québec était indépendant. Est-ce que notre leader serait plus malin que le leader qu'on a en ce moment à Ottawa? Mais on peut faire la preuve par le contraire. On peut dire que en ce moment, du fait qu'on n'est pas maître de nos propres frontières, la situation est à notre détriment. Donc, c'est une preuve par le contraire. Il y a une autre chose aussi qu'on doit discuter quand on parle de la fermeture des frontières, c'est l'attitude du Canada, d'Ottawa, donc par rapport à la quarantaine. Parce qu'on l'a vu, il y a eu des reportages dans le Journal de Montréal et ailleurs au cours des derniers jours qui nous démontrent que c'est de la responsabilité d'Ottawa de s'assurer que les voyageurs de retour au pays observent la quarantaine. Or, ce qu'on a appris, c'est que c'est uniquement ou presque uniquement des appels robotisés où le KIDAM a juste à répondre un ou deux quand il reçoit un appel. Donc, on souhaiterait aussi que la quarantaine soit beaucoup plus sévère, comme ça l'est par exemple en Australie ou en Nouvelle-Zélande.
Oui. En Nouvelle-Zélande, donc, tous les arrivants sont parqués pendant 14 jours à un hôtel pour s'assurer que...
En Australie aussi, oui.
Quand ils sont libérés dans la société civile, ils soient certains qu'ils ne soient pas contagieux. Mais, tu sais, je pense que... Bon, c'est sûr, puis là, j'ai vu que le gouvernement fédéral a embauché des agents de sécurité et des organismes pour faire des visites auprès des gens qui sont en quarantaine. Donc, il va augmenter le nombre de visites puis de vérifications. Mais, de toute façon... Pourquoi est-ce que si on a un couvre-feu ici à 8 heures le soir, on pourrait être à Cayo Coco jusqu'à minuit sur la plage? Il y a un problème de cohérence. Soit la situation est grave, soit elle ne l'est pas. Or, elle l'est et elle pourrait potentiellement devenir encore plus grave. Et si on a fermé nos frontières de façon assez drastique, l'argument de M. Trudeau qui dit que la Constitution l'empêche de le faire, tous les constitutionnalistes disent, ben voyons donc, la Constitution dit que si tu as une bonne raison de limiter la liberté, tu peux le faire, puis écoute, fais-le, puis il y aura une contestation, puis après la pandémie, la Cour suprême dira que tu n'avais pas le droit de le faire, tu sais, c'est quoi l'urgence, l'urgence c'est maintenant.
Oui, et d'autant plus, Jean-François, que quand justement le variant ou la variante issue de l'Angleterre du virus est apparue, Ottawa a bel et bien suspendu les vols arrivant d'Angleterre et les vols vers l'Angleterre. Donc, on l'a fait de façon temporaire en ciblant un pays en particulier parce qu'il y avait un danger imminent qui émanait de ce pays-là. Ben, je veux dire, si t'es capable d'ouvrir cette brèche-là pour un pays dans une période, ben, c'est évident que tu peux ouvrir la brèche. L'autre jour, à l'émission du matin, Mario Dumont et Benoît Dutrisac se posaient la question, pourquoi Justin Trudeau a-t-il cette réticence-là par rapport aux frontières? Et un début de réponse, c'était que pour lui, dans sa tête de citoyen du monde, de monsieur qui pleure tout le temps, de tu sais, d'ouverture le cœur sur la main, frontière égale vilain, frontière égale fermeture au monde, frontière égale xénophobie. Est-ce que tu adhères à cette théorie-là?
Je pense que c'était vrai au début. Au tout début, avant la au début de la première vague, il y avait une réticence idéologique chez un certain nombre de gens de fermer la frontière. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Hein, ce n'est pas explicable rationnellement. Donc, qu'est-ce qu'on ne sait pas? On sait que par ailleurs, le gouvernement canadien tarde énormément à financer, à aider l'industrie aérienne canadienne. Tous les autres pays l'ont fait, le Canada ne le fait pas. Alors, s'il fallait qu'ils réduisent encore le commerce aérien, ben là, ils seraient obligés de dire, ben là, c'est vrai que je vous enlève la plupart de vos clients, donc je suis obligé de vous donner des sous. On ne sait pas pourquoi ils veulent pas leur donner des sous, mais c'est sûr que ça créerait une pression supplémentaire. C'est peut-être là que le bas blesse, mais effectivement, il y a quelque chose qu'on ne sait pas.
Mais tu te rends compte? Parce que si c'est pour une raison économique qu'il ne le fait pas, ça veut dire que des vies humaines ont un prix moins élevé que de sauver l'économie. Moi, si c'est ça, c'est vraiment d'un cynisme absolument épouvantable. Puis, excuse-moi, mais le gouvernement de toute façon d'Ottawa, on est rendu à combien de centaines de milliards là, de déficit? Combien, oui. Tu sais, je veux dire, depuis le 13 mars...
On n'est pas à 10 milliards près, là. Ouais, mais...
c'est terrible à dire, Jean-François. Oui, mais... De toute façon, on l'a vu au bye-bye.
Les Québécois qui n'ont pas été remboursés.
Oui, on l'a vu au bye-bye. Oui, tout à fait. Je sais où tu veux t'en venir, mais je veux juste dire, au bye-bye, on l'a vu, Justin Trudeau qui pense que l'argent pousse dans les arbres ou alors qu'il peut en imprimer dans son sous-sol. Bon, c'était ironique, bien sûr, mais oui, donc tu voulais parler des Québécois, en effet, qui ont acheté des billets de ces différentes compagnies aériennes et qui ont réussi à obtenir tout au plus un report de leur voyage, mais pas de remboursement. Donc, c'est doublement frustrant, l'attitude d'Ottawa très, très molle, en fait, de Marc Garneau, le ministre des Transports.
Oui. On va voir ce que le nouveau ministre va faire. Je vais revenir sur la question de l'indépendance parce que c'est fondamental. L'indépendance, ça ne veut pas dire... moi, j'étais conseiller de Jacques Parizeau. Et souvent, les gens, ils demandaient, pouvez-vous nous prouver que ça va être mieux sous l'indépendance? Tout ce que je peux vous prouver, c'est que si on fait des bons coups, ce sera nos bons coups, puis si on fait des gaffes, ce sera nos gaffes.
Mais
ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir la liberté de décider. C'est ça le gain de l'indépendance. Alors, si on est indépendant puis qu'on élit des mauvais gouvernants pendant 10 ans, ça va être pire, mais on a quand même eu une assez bonne moyenne au bâton pour nos décisions. Et la rapidité de décision, c'est ce qui permet de s'adapter aux défis et ne pas avoir à attendre le reste du pays. C'est un gain pour ceux qui savent manœuvrer. Alors, c'est ça. Donc, sur la question des frontières, depuis le début, on voit que le gouvernement canadien est réfractaire aux demandes du Québec. Sur la PCU aussi, le Québec avait demandé...
Absolument, tu as tout à fait raison de le rappeler.
Flexible.
Oui.
Donc, oui. Dans la gestion de cette pandémie-ci, on voit que un Québec indépendant aurait été plus prudent que ce qui est du Canada. On peut poser la question de quelle aurait été sa capacité de négociation avec Pfizer, mais comme Pfizer vient de nous d'arrêter complètement la livraison pour cette semaine, je vois pas comment ça pourrait être pire.
Voilà. Oui, parce que moi, c'est un argument que j'avais utilisé hier avec Joseph Facal, où on parlait justement, évidemment, c'est un indépendantiste comme toi, lui aussi, et je disais, oui, on aurait gagné sur certains plans, mais le Québec, petit pays, s'il avait été indépendant, n'aurait pas eu la force de négociation. Tu sais, quand t'arrives puis que t'as coast to coast un grand pays, ton poids dans la balance pour négocier est plus grand. Mais en même temps, en effet, quand on voit que Pfizer, de toute façon, mais c'est pas juste au Canada que les doses ont été réduites, c'est qu'ils sont obligés d'agrandir leur usine ou enfin leurs entrepôts en
usine.
Belgique.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Donc mais c'est sûr que mais j'aime beaucoup ta comparaison où tu dis enfin qui est celle de Monsieur Parizeau de dire on va peut-être faire des erreurs mais ça va être nos erreurs et encore une fois j'utilise l'analogie de l'enfant devenu adulte qui veut s'affranchir des décisions de ses parents. C'est sûr que ce jeune adulte va en faire des gaffes mais ce sera ses gaffes Et la seule chose que les indépendantistes revendiquent, c'est le droit de faire leurs propres erreurs.
Le droit de faire des gaffes. Une autre blague de PQ.
Voilà.
Nous voulons le droit de faire nos propres gaffes. Et les gens nous font confiance qu'on va être capable de faire des gaffes. Il y a un lien de confiance, là.
Voilà, on va être capable de s'auto-pelure, de bananiser, comme disait feu Bernard Landry. Décidément, aujourd'hui, on fait appel aux péquistes décédés. Écoute, Jean-François, c'est quand même... Je trouve que c'est extrêmement intéressant depuis le début de la pandémie, parce que ça repose à chaque fois la question, justement, de cette liberté de manœuvre du Québec. Bon, on l'a vu au début, c'était pour toutes sortes de choses. C'était par rapport aux masques, par rapport aux tests rapides. Ça a été, tu sais, à chaque étape de cette pandémie, s'est posée la question de l'opposition entre la volonté de Québec et le bon vouloir d'Ottawa. Et je trouve que ça a dû semer dans l'esprit de nombreux Québécois la petite graine du doute de se dire comment on se serait débrouillé si on avait été autonome. Je trouve que c'est intéressant pour ça.
Exact. Et s'il y en a qui veulent répondre à ma blague de péquisme, c'est sur mon compte Twitter, @JFLisée. Venez répondre. Pour l'instant, le oui est majoritaire. Et puis, parmi les commentaires, il y a des gens qui disent « Enfin, une question claire ».
Bon, ben tu vois, mais ça te prend 50% plus un par contre, hein, Jean-François, rappelle-toi.
Oui, non, mais j'ai plus que ça pour l'instant, là. Alors, si vous êtes contre, dites-le, mais c'est le temps de vous exprimer, là.
C'est le temps de s'exprimer. Écoute, on va prendre un petit 2 minutes juste à la fin, si tu le veux bien, pour revenir. Quand on s'est parlé, toi et moi, la semaine dernière, on parlait de Ginella Massa, donc qui est cette animatrice à la télé de Radio-Canada anglais, CBC, qui porte le hijab. Depuis, toi, tu as écrit une chronique, moi, j'ai écrit une chronique, José Legault a écrit une chronique, évidemment, complètement à l'opposé de toi et moi. Écoute, il y a un lecteur qui m'a envoyé hier... un commentaire que je trouve très pertinent. Il pose simplement la question si cette dame qui porte le hijab, si elle était animatrice au sport et qu'elle portait un chandail du Canadien, est-ce que tout le monde dirait « Oh, il faut regarder au-delà du chandail du Canadien? » C'est une sacrée bonne question.
Oui. Ben, toutes ces questions-là sont bonnes. Si Pierre Bruno portait une croix, au moment où il parle de tous les scandales de pédophilie dans le clergé catholique, oui, est-ce que les gens se diraient pas peut-être qu'il est pas aussi dur envers le clergé parce qu'il porte la croix, tu sais? Immédiatement, il y aurait un doute là, parce que c'est il y a pas de problème qu'il soit chrétien ou non, je sais pas, mais quand tu es suffisamment chrétien pour penser très important de le montrer tous les jours à ton travail d'information, voilà, c'est probablement que tu es très investi dans la défense de ta religion, puis probablement de ton clergé. En tout cas, ça soulève un doute sur ton intégrité intellectuelle lorsque tu touches des sujets qui sont liés à une religion pour laquelle tu as tellement d'attachement que tu veux que tout le monde sache tout le temps que tu en es membre. Okay?
C'est très bien dit. Tu trouves tellement important de dire que tu fais partie de tel club ou de tel rassemblement que tu veux en tout temps que les gens le sachent. Et en tout respect pour ma collègue José Legault qui a écrit sa chronique, donc il faut voir au-delà du hijab. C'est assez singulier quand même parce qu'on nous demande de regarder au-delà du hijab auprès d'une personne qu'il porte en permanence. Donc, si le hijab est si peu important qu'il faut regarder au-delà, pourquoi est-ce si important de le porter en permanence? Bref, le débat est lancé. On n'est pas obligé d'être d'accord, comme était le titre de l'ancien titre de mon émission. Jean-François, c'est toujours un plaisir de te parler. Donc, j'encourage les gens à aller te retrouver sur ton compte Twitter et aussi sur ton blog, tes balados, tes livres, l'ensemble de ton œuvre, quoi. Puis nous, on se retrouve mercredi prochain.
Parfait. Salut bien.
Jean-François Lisée, donc, au cas où vous en souviendriez pas, ancien chef du Parti québécois et chroniqueur, journaliste et auteur.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Vous savez, aujourd'hui, journée extrêmement importante aux États-Unis, c'est la sermentation de Joe Biden comme président des États-Unis. Et au cours des derniers jours, il a fait ce qu'il appelle lui-même un choix historique en nommant une professeure d'université en pédiatrie et psychiatrie adjointe au ministre de la Santé. Pourquoi un choix historique? Parce que Rachel Levine, qui l'a nommée à ce poste, est une femme transgenre. C'est une première dans l'histoire américaine. On va en parler avec Michel Blanc. Elle est auteure, conférencière et blogueuse sur son site michelblanc.com. Excuse-moi, Michel, la langue me fourchait. Comment vas-tu?
Ben, ça va bien, toi?
Ben, ça va très bien, Michel. Bonne année 2021. Écoute, je sais que tu préfères quand je t'appelle ou qu'un recherchiste t'appelle pour parler de tes sujets de prédilection, le web, les géants du web, etc. Mais de temps en temps, on t'appelle aussi pour parler des personnes transgenres. Qu'est-ce que tu as pensé? Comment as-tu réagi quand tu as appris cette nomination aux États-Unis?
Ben, c'est clair que c'est une bonne nouvelle et que c'est clairement un changement drastique par rapport à l'administration précédente. On se souvient que M. Trump ne voulait pas voir les trans dans l'armée, qu'il a fait beaucoup de mouvements qui étaient contre les trans. Alors là, c'est comme pour le droit des femmes, hein?
Ouais.
Je pense que c'est Madame de Beauvoir qui disait que les droits n'étaient jamais acquis et que ça prendrait pas grand-chose pour revenir en arrière.
Ouais.
On le voit avec l'avortement, on le voit avec plein d'enjeux. Et pour les trans, ben disons que c'est encore
plus fragile.
Oui, plus fragile parce que les droits sont quand même assez récents et il y a beaucoup de pression des groupes religieux. Pour discriminer les trans. D'ailleurs, il y a beaucoup de religions qui discriminent les trans. Et ce qui est malheureux, c'est que, tu sais, oui, tout le monde est égal, sauf quand c'est quand ça a trait à la religion. Alors, quand la religion s'en mêle, là, tout d'un coup, les droits qui semblent acquis pour tous disparaissent. Bref, c'est un signal fort. On va quand même souligner que Mme Levine, elle a été assistante secretary of health au niveau de l'État. Elle a été renouvelée 3 fois. C'est un professeur, comme tu l'as mentionné, de pédiatrie et de psychiatrie au Penn State College, qui n'est pas un petit college, là, quand même. C'est une pédiatricienne. Alors c'est quand même quelqu'un qui est hautement formé, qui était prof d'université, qui a été impliqué à la lutte contre le coronavirus dans son état de la Pennsylvanie. Elle était secrétaire de la santé de la Pennsylvanie, là, elle va devenir secrétaire de la santé adjointe aux États-Unis. On va rappeler aussi que les trans, c'est comme les populations générales, hein. Il y a des génies, puis il y a des idiots, puis
j'espère.
Oui. Il y a à peu près tout. Mais je pense que c'est quoi? L'Indonésie ou un pays de l'Asie du Sud-Est où la ministre du numérique est une personne trans. Moi, une de mes héros, c'est Lynn Conway, qui a fait beaucoup pour la situation des trans, qui est une personne hautement distinguée chez IBM, qui est une inventrice de plusieurs circuits intégrés, professeure de l'université en informatique. Il y a des gens de très, très haut niveau qui sont trans. Moi, une de mes bonnes amies est prof à l'ETS, maîtrise en génie...
À l'École de technologie supérieure, oui.
Bref, il y a des trans à peu près toutes les couches de la société, y compris dans les plus hauts postes. Moi, je connais une tranche qui aurait pu peut-être être élue au gouvernement et peut-être devenir ministre du numérique, mais bon.
Hein, es-tu sérieuse, toi? Mais j'aimerais ça savoir son nom.
Alors, tu sais, il y a des gens qui sont. Puis c'est la même chose, il y a aussi M. Boutlieg, qui est ouvertement gay, qui a été nommé à une très, très haute fonction, à la plus haute fonction qu'une personne ouvertement gay n'a jamais été nommée dans l'administration américaine. Il y a une certaine ouverture. Puis en même temps, moi je célèbre ça, mais en même temps, la downside, c'est qu'effectivement, on en fait un plat. Non, mais c'est la preuve qu'il y a encore beaucoup d'étapes à passer parce que normalement, si c'était complètement accepté, on n'en parlerait pas. T'sais? Alors si on en parle, c'est parce qu'on trouve encore que c'est extraordinaire et que c'est pas habituel. Et peut-être qu'un jour, ça deviendra habituel qu'on n'aura plus besoin d'en parler.
Je suis pas sûre que je suis d'accord avec toi, Michel. C'est-à-dire que est-ce que on en parle autant parce que c'est inhabituel ou simplement une question de nombre? C'est-à-dire que ça prend toujours quelqu'un pour être la première fois. Puis il y en a un, puis quand il y en aura 22, c'est une question de nombre plus qu'une question de réticence. Est-ce que ça peut pas être simplement ça aussi? Je regarde, Kamala Harris, première femme, vice-présidente, première femme noire et de descendance asiatique, parce que son père est jamaïcain, sa mère est indienne. À un moment donné, il va en avoir 25. Puis on n'en fera plus de cas, mais c'est simplement parce que, regarde, quand il y en a un, ça ressort du lot.
C'est un marqueur temporel, tout à fait. Puis, c'est une première. Mais effectivement, dans 20 ans, dans 30 ans, idéalement, on n'en fera plus un plat qu'une personne prend, c'est des hautes fonctions. T'sais? Et peut-être même, sait-on jamais, on aurait une personne trans au Canada qui sera ministre, qui sera peut-être même premier ministre ou premier ministre, parce qu'évidemment, les trans sont tout le temps d'un sexe que de l'autre. Moi, j'applaudis, tant mieux. Puis en plus, évidemment, il semble que c'est une personne hautement formée et hautement compétente pour ce poste-là, alors tant mieux.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a tout l'aspect. C'est là, on en parle, on est à la radio, donc les gens qui nous écoutent, évidemment, ne peuvent pas voir à quoi ressemble Rachel Levin. Je pense que c'est important d'un point de vue de l'image aussi, parce que quand on voit Rachel Levin, c'est un message fort qui est envoyé, parce que c'est une personne transgenre et je m'excuse de dire ça comme ça, mais on voit que c'est une personne transgenre.
Oui, mais en même temps, tu sais, moi, quand j'ai fait ma transition, là, entre autres, ce qui m'a sauvé la vie, c'est de prendre connaissance de Lynn Conway. Elle avait fait un site Transsexual Women Successes où il y avait plusieurs exemples extrêmement positifs de transsexuels partout sur la planète. Ça prend des exemples visibles. Pour te rassurer que toi, tu peux passer au travers puis continuer ta vie. Et tu sais, moi, une phrase que j'oublierai jamais, c'est mon médecin de famille, quand j'ai fait ma dysphorie d'identité de genre, et c'était la première personne à qui j'en parlais, elle m'a dit, vous savez, il y a moyen de vivre une vie marginale heureuse.
Une vie marginale heureuse?
Oui, tout à fait. Puis on sait que le taux de suicide chez les personnes trans est assez élevé. Et souvent, c'est quand même un changement qui est drastique, qui peut mener au désespoir, qui mène très souvent à la dysphorie d'identité de genre, qui est une dépression sévère. Il faut qu'on voit une lumière au bout du tunnel. Puis, Mme Levin, c'est une des lumières au bout du tunnel. T'sais. Alors, de voir que tu peux changer de sexe et continuer d'avoir une vie qui est positive, continuer de contribuer à la société, c'est rassurant et ça te permet d'avoir de l'espoir pour justement pas mettre fin à ta vie puis croire que la seule solution c'est la mort. T'sais? Alors moi j'applaudis ça. Puis oui, c'est une dose d'espoir, aussi. Tu sais, il y a à peu près 15 000 personnes trans qui sont dans l'armée américaine. C'était stressant, c'était inquiétant pour ces gens-là. Ben là, tu sais, ils ont l'espoir qu'enfin, ils vont pouvoir continuer de contribuer puis faire la job qu'ils aiment, même s'ils savaient qu'ils sont trans, tu sais.
Alors, c'est... Ouais. C'est très important ce que tu dis, parce que mais c'est très important, puis à chaque fois qu'on se parle, toi et moi, de ces questions-là, tu reviens toujours avec les chiffres, et tu as tout à fait raison de le faire, sur le taux de suicide. Comme tu le sais, puis les auditeurs le savent aussi, moi j'ai une nièce qui est devenue mon neveu, donc mon neveu est un homme transgenre, et... Ce qui est très important quand on parle de tout ce phénomène-là, de toute cette communauté-là, c'est aussi pas de parler simplement de la violence contre soi-même, donc du taux de suicide qui est très élevé, mais de la violence envers les personnes transgenres. La discrimination, oui, mais aussi des actes de violence. Et je me dis, le fait que Rachel Levine soit nommée à un poste qui est le poste de la santé, qui en ce moment, à cause de la pandémie, est peut-être un des postes les plus importants, les plus cruciaux. Est-ce que ça peut aussi envoyer un message clair aux Américains? Ne vous en prenez pas aux personnes transgenres. Juste de simplement dire, ce sont des êtres humains comme les autres, même si ça, c'est terrible d'être obligé de rappeler ça en 2021.
Tout à fait. Puis, on a l'impression que c'est un phénomène qui est nouveau, mais c'est vieux comme le monde. Là. C'est pas un phénomène qui est récent, c'est un phénomène dont on parle le plus. Une des positions qui est intéressante, c'était la position des Premières Nations. Traditionnellement, avant que les Jésuites arrivent, les personnes trans étaient des personnes vénérées. On disait que ces personnes-là avaient la vision des deux aspects de la nature. Les deux esprits. Et on en faisait des chamans et on en faisait des grands conseillers au peuple amérindien. Alors, il y a tout ça, même dans la Rome antique, hein, tu sais, hermaphrodite, hein, qui était la déesse qui avait les deux sexes. Alors, si on regarde tout au long de l'histoire, souvent, bien évidemment, c'est soit la religion ou soit l'idéologie qui faisait que ces personnes-là étaient ostracisées, tu sais. La nature elle-même, on a une société qui valorise la binarité, tu sais, grand, petit, blond, noir, haut, bas, tu sais, bon, on aime la binarité, mais la nature est beaucoup plus complexe que ça. Tu sais, rien qu'au niveau des chromosomes, là, je pense qu'il y a une possibilité d'une trentaine de chromosomes pour définir le sexe, là, tu sais. Alors, c'est pas rien qu'il y a le XX puis le XY, c'est beaucoup plus complexe que ça. Même qu'au niveau olympique, on a essayé de déterminer qu'est-ce qu'était un homme et qu'est-ce qu'était une femme, et on n'est pas encore arrivé à déterminer qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme. Parce que bon, il y a des variantes chromosomiques.
C'est-à-dire qu'en fait, pour être plus précis, c'est que, par exemple, pour les personnes transgenres, que ce soit homme vers femme ou femme vers homme, c'est que pour pouvoir compétitionner dans la catégorie des hommes ou dans la catégorie des femmes, on a essayé de déterminer à partir de quel pourcentage d'hormones féminines ou d'hormones mâles, on pouvait accepter que la personne compétitionne entre eux. Et c'est un calcul est excessivement difficile puisque dans certains cas, même chez des gens qui sont pas des personnes transgenres, leur taux de testostérone par exemple est moins élevé que l'individu qui lui a subi ce changement de sexe. Donc ce sont des questions excessivement complexes. Tu as tout à fait raison de le mentionner. Michel, j'essaye d'imaginer, parce que c'est toujours un peu le cliché en politique quand il y a des gens qui sont nommés, d'imaginer un jeune qui se pose des questions, qui est en réflexion sur son identité. Quel genre de message, tu penses, ça envoie la nomination de Rachel Levine sur quelqu'un qui est peut-être en questionnement, justement, à ce niveau-là?
Ben justement, ça donne un message que, oui, il y a une vie après la transition. Oui, il y a possibilité, comme je le disais, de valeur, d'avoir une vie marginale heureuse. Oui, il y a possibilité d'avoir du succès. Oui, il y a possibilité de continuer son travail. D'ailleurs, ironiquement, moi, quand j'ai fait ma transition, j'avais peur de perdre mes clients et je pensais que ma famille comprendrait. Et ce qui est arrivé, c'est tout à fait le contraire. J'ai perdu ma famille et mes clients ont compris. Puis d'ailleurs, c'est une anecdote que j'aime raconter de temps en temps. Un de mes gros clients, c'est un couple, puis là, je vais les nommer parce que c'est vrai, puis ils méritent, là, c'est des saints de Roman, avec qui je travaille depuis 15 ans.
D'accord.
Et puis, je m'envoie dîner avec, avec Yves et Marie-France, puis bon, tu sais, là, c'est en revenant du dîner, je leur annonce que, tu sais, j'allais changer de sexe, puis là, tu sais, j'avais, c'était, parce que c'était un de mes bons clients, puis tu sais, j'étais extrêmement nerveuse. Puis Marie-France, elle dit « Ah, mais quelle bonne nouvelle! » Moi, je ne m'attendais pas à ça. T'sais, pourquoi quelle bonne nouvelle? Ben, elle dit, tu vas être mieux dans ta peau. Puis deux, ben, comme tu vas être mieux dans ta peau, tu vas être plus productif pour nous autres. Puis elle dit trois, ben, on va pouvoir parler de robe.
Ah ben! C'est trop mignon! On va pouvoir aller magasiner ensemble. C'est très bon.
Je ne m'attendais pas à ça. D'ailleurs, non. Elle m'a référé à son coiffeur. Puis bon.
C'est trop mignon. Ouais. Alors, ben, c'est super.
Il y a écoute, toutes sortes de réactions,
tu sais. Ouais, tout à fait. Mais écoute, c'est drôlement intéressant. Puis écoute, peut-être que tu vas pouvoir échanger des adresses de coiffeurs avec Rachel Levine, donc qui devient première femme transgenre, donc nommée ministre adjointe de la santé par Joe Biden, le tout nouveau président des États-Unis. Il est assermenté aujourd'hui. Merci beaucoup, Michel. Puis je te promets, on va alterner entre les fois où on te reçoit pour te parler de numérique et les fois où on te reçoit pour parler de la communauté transgenre. Je rappelle que t'es auteur, conférencier et blogueuse, on peut retrouver sur ton site michelblanc.com. Merci, Michel.
Ben merci. Est-ce que tu me permets encore 15 secondes?
Oui, vas-y, 15 secondes.
Oh, il y a une dernière anecdote, justement, étant donné le coronavirus, là, j'essaie de me faire croire que les repousses grises sont maintenant la mode. Alors, question de se faire un mindset positif, là, mais vive les repousses grises.
Vive les repousses grises. Ben, on fait partie du même club, toi et moi. Hey, merci beaucoup, ouais, Michel. Ouais. À très bientôt.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
Cube Radio.
Ce qu'il y a de bien avec Geneviève Borne, c'est que on peut toujours parler de toutes sortes de sujets avec elle. Donc, je veux évidemment lui parler de son documentaire absolument formidable qui nous donne envie de prendre l'avion, même si on n'a pas le droit. Un documentaire sur la Turquie qui est disponible en ce moment sur Club Illico et aussi d'une autre émission dont on a peut-être un petit peu entendu parler. Une autre émission à laquelle elle a participé récemment, c'est Geneviève Borne, qui est animatrice, qui est auteure et qui est réalisatrice. Bonjour Geneviève, comment vas-tu?
Bonjour Sophie, ça va très bien.
Écoute, moi ce que j'aime avec toi Geneviève, c'est que peu importe ce qui arrive dans ta vie, puis Dieu sait que tu as eu ton lot de montagnes russes, tu arrives à rester zen, souriante, et Sébastien Laperrière, qui est le réalisateur de l'émission, m'a dit ben Geneviève est là, puis elle a du sourire dans la voix. Comment tu fais pour rester toujours aussi optimiste dans la vie?
Je pense que, en fait, j'ai le bonheur facile et j'aime vraiment, j'adore la vie. Tu sais, c'est vraiment, je suis vraiment une personne très, très positive. Puis aussi, comme tu disais, quand tu traverses des montagnes russes, quand tu vis des épreuves, comme j'ai vécu aussi, en fait, après ça, tu es juste comme content d'être en vie, tu comprends, puis d'être... je trouve que la vie en général vaut la peine d'être vécue, puis elle est belle, puis tu sais, donc c'est ça, tu sais, j'ai le bonheur facile.
Bon, ben j'adore ça. Écoute, le bonheur facile, c'est aussi une des belles qualités que Marie-Mé t'a concédée, c'est-à-dire que quand tu as été évincée de Big Brother célébrité, puis qu'elle a fait l'entrevue avec elle, oui. C'est une des choses qu'elle a souligné à quel point pendant cette semaine-là que t'as passé à Big Brother, que t'as été super positive. On va écouter un petit extrait du résumé qu'il y a eu au début de l'émission d'élimination de dimanche soir sur les ondes de Novo avec Big Brother.
La maison s'est donc retournée contre la matrone.
C'est la date qui torche plus le party quand il y a un party, c'est Jen.
Dodo! Dodo!
Et le patron a exaucé leur souhait.
T'as quoi, midi?
Patron, est-ce que t'as besoin de moi?
À la cérémonie du veto.
J'ai décidé de sauver moi.
Geneviève ne se doutait tellement de rien.
Geneviève, donc je vais demander de t'asseoir à la place de Marie-Chantal.
Les autres savaient pas que j'avais accepté d'être mise en danger.
Et certains ont eu des remords.
J'ai pas l'habitude, tu sais, de mentir à des gens.
On t'a menti, François Lambert t'a fait ce qu'on appelle communément un coup de cochon. C'est lui qu'on entend rire un peu là pendant le pendant l'extrait.
En fait,
oui, en vas-y.
Il faut dire que ceux qui connaissent bien Big Brother, puis je sais que tu raffoles pas des termes anglophones quand le terme francophone existe. Il faudrait trouver le bon terme. Mais ce qui m'a fait, c'est ce qu'on appelle dans les termes de Big Brother, un blindside. J'étais blindside. Alors, on pourrait traduire ça par un angle mort, mais c'est pas pareil, en fait. Il a fait un parfait blindside. Et moi, j'ai mordu à ça complètement. Puis, en fait, c'est sûr que je peux avoir l'air complètement naïve. Et moi, je regarde ça, je suis comme, mon Dieu, que j'ai l'air complètement naïve. Et j'ai été embobinée, mais tout le monde se fait embobiner par François. On le voit déjà, là, tu sais, par la suite, ça continue. Et tout le monde se fait embobiner par lui. C'est vraiment un excellent joueur. Et il joue sur tous les fronts. Il fait partie des deux grandes alliances. Et c'est vraiment incroyable à quel point les deux équipes ne savent même pas qui fait partie des deux clans. Alors, tout le monde se fait blindsider en ce moment. C'est incroyable.
C'est très bien.
C'est incroyable.
Ouais. C'est très bien résumé. Et en même temps, tu vois, tu parles de ça, les alliances, les complots, les gens qui parlent dans le dos et tout ça. Et pour te connaître un petit peu, Geneviève, c'est tout le contraire de toi. Et c'est une chose aussi que Marie-Mé t'a souligné, c'est que t'es la fille qui a le moins de malice au monde. Tu parles jamais dans le dos de personne. Ça fait des années que je te connais. T'es jamais la fille à aller voir avec un potin parce que tu ne connais aucun potin sur personne.
Exact.
Puis même si tu le savais, tu le répéterais pas parce que tu rentres pas dans ces jeux-là. Et
alors,
donc...
Alors, ta question, dans le fond, c'est mais qu'est-ce que t'es allé faire dans cette galère?
Non, je la poserais différemment parce que je porte pas de jugement sur ta décision, bien au contraire. Ma question est sans malice. Ma question est, qu'as-tu retenu, toi, comme être humain, de ton expérience?
Moi, je te dirais, en fait, que je le sentais dès le début, puis en fait, pour avoir regardé plusieurs épisodes de Big Brother, je savais que c'était ça, tu vois. Mais j'ai vu dans plusieurs épisodes qu'il y avait quand même des gens qui étaient gentils, loyaux, qui n'étaient pas des traîtres, qui réussissaient à quand même bien avancer là-dedans, en restant droit, en restant correct et tout ça. Et tu peux quand même faire un bon bout de chemin. Alors, je m'imaginais jouer comme ça, en fait, et avancer sans faire de tort trop aux autres. Mais ce que tu peux pas prévoir, c'est ce que les autres vont te faire. Alors donc, puis, François Lambert a vraiment sorti le bazooka. Il aurait pu me faire une petite jambette parce que...
Mais tu réponds pas à ma question, Geneviève. Tu réponds pas à ma question.
Je suis endormie. Moi, je suis la reine du dodo, hein, moi.
Oui, ben
donc,
oui.
Qu'est-ce que j'ai retenu?
La police du dodo.
Ah, oui, okay.
Alors, qu'est-ce que tu as retenu?
Oui.
Qu'est-ce que ça, autrement dit, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que financièrement, on le sait que c'est payant. Ça aurait pu être très payant si t'étais resté pendant 13 semaines. Mais d'un point de vue humain, qu'est-ce que t'en retires?
Oui. Alors, honnêtement, je te dirais qu'il faut toujours écouter son instinct. Mon instinct me disait que c'était pas pour moi. J'ai eu envie quand même de me secouer et de sortir de ma zone de confort. Et je veux pas le regretter parce que je regrette pas mes expériences de vie. Faut pas le regretter. J'ai voulu sortir de ma zone de confort, mais je pense que j'avais pas besoin d'aller si loin pour sortir de ma zone de confort. Alors, je pense que au final, faut rester fidèle à soi-même et suivre son instinct. Mais, je trouve que ça fait quand même une télé, une émission captivante. Moi, je la regarde depuis que je suis sortie, puis je dis, mon
Dieu! Oui.
Mais c'est complètement accrocheur. Et puis, en plus, le fait que maintenant, je sais comment ça se passe à l'intérieur de la maison, je sais qu'il se passe beaucoup de choses qu'on ne voit pas à la télé. C'est fascinant, tu sais, de voir ça à la télé une fois sorti de la maison.
Ouais. Alors, dans le petit extrait qu'on a entendu, la voix off, la voix de l'annonceur te qualifie de matrone, puis on t'entend dire dodo, dodo, tout ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, tu trouves pas ça un peu, je sais pas, là, la matrone et tout? Est-ce que tu te perçois vraiment comme la trouble fête?
Ben non, alors que moi, je me couche à 3 heures du matin tout le temps, dont la nuit dernière, je me couche tard. Oui. Alors, donc, non, c'est ça, ça ne me convient pas du tout comme terme, en fait, parce que... Mais c'est le premier soir, en fait. On était dans la maison, puis c'était une espèce de journée qui finit plus, puis à un moment donné, on a entendu la voix de Big Brother qui dit « Candidat, vous serez réveillé à 7h30 ». Puis là, je suis comme « 7h30 ». C'est tombé de bonne heure, tu sais. Je dis, mais là, il est quelle heure? Puis là, quelqu'un dit, il est 2h30. Je dis, il est 2h30 du matin, on va dormir 5h, on y arrivera pas. Puis là, j'ai dit, dodo, on fait dodo, tout le monde gagne, on y arrivera pas, tu sais. J'ai dit ça sur un ton, c'est comme en joke, là, tu sais. Puis, ça a froissé certaines personnes dans la chambre, dans le dortoir, qui ont dit, ben là, ça va être plate, là. Elle veut qu'on dorme, tu sais. Mais c'est quelque chose qui s'est passé, tu sais, comme le week-end d'avant. Mais après ça, toute la semaine, ils ont vu que je me couchais tard, puis que j'avais du fun, tu comprends? Mais c'est quelque chose qui, tu sais, ben, écoute, tu sais, dans le fond, on le sait, quand il y a un filon dans une émission, on presse le citron, puis tout ça, tu sais. Donc, ça a été monté en épingle et tout ça, tu sais. Alors, ceux qui ont pu penser au début que j'étais straight ou que j'allais briser la fête, ont rapidement vu que c'est comme non, moi, je vais tout vous coucher, là, parce que moi, je vais jusqu'à 3 heures du matin.
Oui, puis, tu sais, t'es pas une matin.
Ça n'a pas été vu, ça.
Non, c'est ça. Après. Bon, c'est sûr que tu prends pas un petit verre dans le nez. Oui, mais il faut en rire.
Alors, moi, je me suis fait des chandails, la police du dodo. J'ai ma tasse à café, police du dodo. Je suis allée à l'émission de Julie l'autre soir. J'ai ri de ça. Puis il faut en rire. Il faut pas se
absolument
prendre sérieux. T'sais.
Absolument. Écoute,
il faut pas se donner trop d'importance.
Voilà, Geneviève, je voulais absolument te parler aussi parce que tu n'es pas que la fille qui a été évincée de Big Brother célébrité. T'es une fille qu'on adore parce que t'es à la tête de tes propres projets, dont cette émission donc que t'as tournée en Turquie, qui est disponible en ce moment sur Club Illico. On en écoute un petit extrait.
Bienvenue au Grand Bazar. C'est le plus grand marché couvert au monde. C'est tellement grand, en fait, que le marché forme carrément un quartier d'Istanbul. Vous l'avez peut-être déjà vu. Dans les scènes d'ouverture du film Skyfall de James Bond, il y avait une poursuite spectaculaire en moto sur les toits. Chose certaine, ici, c'est un labyrinthe. C'est plein, plein de couloirs. Puis on vend de tout. Des vêtements, des tapis, de la nourriture, des bijoux. C'est une expérience typique d'Istanbul qu'il faut vivre.
Ça, c'est ta zone de confort. Les émissions sur le voyage, ça, c'est ta zone. Ça, c'est la Geneviève qu'on connaît.
Envoyez-moi au bout du monde pour que je puisse partager ce que je vois. C'est vraiment ce que j'aime faire dans la vie, tu sais, c'est tourner des émissions, c'est faire des photos, c'est le voyage, tu sais, c'est vraiment au cœur de ma vie. Pas depuis un an, évidemment, puis d'ailleurs, j'avais d'autres projets, tu sais, qui sont sur la glace à cause de la pandémie, mais Jolie Turquie, c'est vraiment mon bébé parce que c'est moi qui a réalisé le documentaire, qui a fait toute la recherche, qui l'anime et qui a vraiment fait ça de A à Z avec uniquement un super caméraman belge que j'ai retrouvé là-bas, avec qui j'avais jamais travaillé et ça s'est tellement bien passé. La Turquie, c'est un pays fabuleux, tellement riche en histoire. puis tellement varié au niveau des paysages, c'est de toute beauté. T'sais. Alors, en ce moment, comme on peut pas voyager, ben au moins, je permets aux téléspectateurs de Club Illico de pouvoir le faire à partir de leur salon.
Ouais. Et écoute, pour revenir, écoute, on va écouter ça évidemment sur Club Illico. Et on continue de suivre, pour ceux qui aiment ce genre d'émission, on continue de suivre le reste de l'équipage de Big Brother Célébrité. Puis je note quand même que t'as dit à un moment donné à propos de François Lambert que tu sais où il reste, puis tu vas aller lui jeter des petites roches. Alors j'ai bien hâte de voir si tu mets ta menace à exécution. Je le sais. C'est comme ma chronique de ce matin. Ma chronique de ce matin sur Big Brother aussi, c'est une blague, mais ça a l'air que c'est pas tout le monde qui l'a pris comme ça. Il y a des gens qui l'ont pris au premier degré. C'est pas grave, je suis capable de vivre avec. Je t'embrasse très fort, Geneviève, à distance, bien sûr, parce qu'on n'a pas le droit de le faire pour de vrai. Puis merci de nous donner encore le goût de voyager et de rêver, même si on peut pas le faire pour de vrai. Donc, on écoute ça, Jolie Turquie sur Club Illico. Merci beaucoup!
Merci, Sophie. À bientôt. Bye!
C'était l'animatrice et réalisatrice et participante à l'émission de télé-réalité Big Brother Célébrité, Geneviève Borne. Et c'est avec elle et son beau sourire dans la voix que se termine l'émission. Merci à Sébastien Laperrière à la mise en onde, à la réalisation. Merci à William Boivin à la recherche et à Luc Fortin également qui prête main forte. Et puis on se retrouve demain, lendemain de jour d'assermentation aux États-Unis.
Cube Radio.